Vous écoutez, on lit pour vous.
Péage sur les routes. L'opposition n'est pas contre, mais à certaines conditions. Un texte de Patrice Bergeron, paru le 16 avril 2026 dans Novo Info. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, n'est pas contre le principe d'utilisateur-payeur. Mais il veut revoir la colonne des dépenses de l'État avant de puiser dans la poche des contribuables. L'opposition n'est pas fermée à l'installation de postes de péage sur les routes du Québec, comme l'envisage le gouvernement caquiste. Mais le Parti libéral, PLQ, et le Parti conservateur du Québec, PCQ, d'Éric Duhaime, ajoutent des conditions avant d'en arriver là. Le gouvernement Fréchette est en réflexion actuellement sur la mise en place de péages pour combler en partie le déficit accumulé d'entretien des routes, qui s'élèverait à plus de 24 milliards de dollars. On n'est pas contre le principe de l'utilisateur-payeur, a affirmé M. Duhaime en point de presse jeudi matin à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut regarder les dépenses avant de regarder d'autres sources de revenus, a ajouté sa députée Maïté Blanchette-Vézina à ses côtés. Ça coûte plus cher de faire des travaux au Québec. Ça fait qu'il y a des actions à poser sur les dépenses avant de penser à des nouvelles sources de revenus. PLQ. Pour sa part, le chef libéral, Charles Milliard, a aussi soutenu jeudi matin qu'il faut réfléchir à la solution du péage. Pour les nouveaux projets, il faut être ouvert à ça, a-t-il suggéré, en rappelant les pressions sur les finances publiques et les contraintes que cela impose. Collectivement, on ne fera pas de magie financière au Québec. Aucun parti ne pourra faire de la magie financière. M. Milliard a ajouté que si des péages sont imposés, il faudra toutefois qu'il existe des solutions de rechange pour les usagers de la route, d'autres tronçons gratuits. Lundi, à sa première conférence de presse à titre de nouvelle chef du gouvernement, Christine Fréchette avait dit que la mise en place de péages était à évaluer. « Je ne ferme pas la porte d'emblée. Est-ce qu'il y aura des péages à la grandeur du Québec? Non. » Mais c'est une formule peut-être qu'il faudra considérer. Je vais voir les propositions. Mercredi, le ministre des Transports, Jonathan Julien, avait renchéri en disant que le péage est la bonne avenue pour combler le déficit d'entretien des routes au Québec. Il avait rappelé que le gouvernement peinait à entretenir les 30 000 kilomètres de routes dont il a la responsabilité. Selon les données officielles du gouvernement du Québec, 56 % des routes sont jugées en bon état, 13 % sont jugés en mauvais état et 31 % en très mauvais état. Le Plan québécois des infrastructures, PQI, 2026-2036, prévoit un montant de 35,7 milliards de dollars pour le réseau routier, réparti de la façon suivante. 88 % 31,6 milliards de dollars en maintien d'actifs, donc entretien et réparation, et 12 % 4,1 milliards de dollars en bonification, c'est-à-dire l'ajout d'infrastructures. Le déficit de maintien d'actifs a beaucoup augmenté depuis l'arrivée au pouvoir de la coalition Avenir Québec en 2018. C'était Péage sur les routes. L'opposition n'est pas contre, mais à certaines conditions. Un texte de Patrice Bergeron, paru le 16 avril 2026 dans Novo Info.
Des influenceurs vendent le cannabis à nos jeunes. Un texte de Maria Mourani, paru le 12 avril 2026 dans le Journal de Montréal. Des influenceurs diffusent sur les réseaux sociaux une image valorisée de la consommation de cannabis, présentée comme un mode de vie attrayant. Certains affirment le faire pour des raisons médicales, mais une étude menée par l'Institut national de santé publique du Québec met en lumière des pratiques préoccupantes. Selon cette étude, 52 influenceurs ont diffusé 673 publications liées au cannabis en seulement 3 semaines auprès d'un public dont près du tiers est composé de jeunes âgés de 13 à 24 ans. Ces contenus ne comportent généralement aucun message de prévention. Il présente plutôt des images soignées et esthétiques, mettant en scène des jeunes dans des contextes de détente, de socialisation ou de bien-être. Dans plusieurs cas, ces publications font la promotion de marques, d'événements ou de rabais sans indiquer clairement leur caractère publicitaire. Le cannabis est ainsi intégré à des routines de vie et associé à une image positive, contribuant à lui donner une valeur sociale et émotionnelle. L'étude souligne également que des comportements à risque pour la santé sont fréquemment exposés, notamment la consommation de produits à forte teneur en THC. Une exposition répétée à ce type de contenu, en particulier lorsqu'il provient d'influenceurs, est associée à l'adoption ou à l'augmentation de la consommation chez les jeunes. La consommation précoce de cannabis peut avoir des effets sur l'apprentissage, la santé mentale et le développement global, jusqu'à l'âge adulte. Bien que la promotion du cannabis soit encadrée au Québec, certaines publications semblent contourner les règles en vigueur en associant le produit à un mode de vie ou à des expériences positives. L'angle mort. La législation interdit notamment de faire la publicité d'un produit de cannabis, d'en promouvoir l'image ou de l'associer à un mode de vie. Les pratiques observées suggèrent que ces règles peuvent être contournées dans l'environnement numérique. L'étude met ainsi en évidence un écart entre le cadre réglementaire et les contenus réellement diffusés sur les plateformes sociales. C'était « Des influenceurs vendent le cannabis à nos jeunes », un texte de Maria Mourani, paru le 12 avril 2026 dans le Journal de Montréal.
Comment Ozempic influence votre assiette? Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 4 avril 2026 dans la presse. Le nombre grandissant d'utilisateurs de sémaglutide et d'autres médicaments de type GLP-1 offre une occasion d'affaires à l'industrie alimentaire. Certains ne s'en privent pas. D'autres suivront. Est-ce une mauvaise chose? Ils magasinent davantage dans la section bio, mangent moins de viande, plus de fruits et de légumes. Les patients sous GLP-1, comme les célèbres Ozempic et Wegovy, ont aussi tendance à choisir des aliments enrichis en protéines et autres nutriments bénéfiques. Si créer des menus et des produits pour les utilisateurs de médicaments GLP-1 pouvait sembler fantasque, il n'y a pas si longtemps, le nombre grandissant de patients peut tenter certains acteurs importants de l'alimentation. C'est certain que la réponse de l'industrie canadienne est moins grande, indique le professeur Brian E. Rowe de l'Université d'État de l'Ohio. Cet observateur du monde agroalimentaire était présent à Montréal lors de la rencontre sur l'innovation alimentaire DUX au mois de février. Il y a fait toute une présentation sur ce sujet devant une partie de l'audience qui était tout de même surprise de réaliser que l'impact est réel. Brian E. Rowe parle d'un taux d'utilisateurs de 10% à 12% aux États-Unis et autour de 5% des adultes au Canada avec des données qui datent un peu. Les évaluations sur le nombre de patients qui prennent un médicament de type GLP-1 varient beaucoup. Une étude menée par Léger et dévoilée le mois dernier conclut que 8% des adultes canadiens consommeraient désormais un médicament GLP-1. Il risque d'y en avoir beaucoup plus dans les mois et les années à venir, puisque Santé Canada étudie présentement 17 demandes de médicaments génériques. Résultat, une importante partie de la clientèle réduit sa consommation à l'épicerie et au restaurant, particulièrement au début du traitement. Selon les données du professeur Rowe, la facture d'épicerie familiale fond de 8% au départ pour ensuite atteindre une réduction de 4% après 6 mois de traitement dès qu'il y a un utilisateur dans la maison. Ce serait judicieux de répondre aux besoins de ces utilisateurs, précise Brian E. Rowe en entrevue. Parmi les comportements qui changent, les collations de style calories vides perdent de l'intérêt puisque chaque bouchée compte et que les patients sont rassasiés plus rapidement. Ça vient aussi affecter la valeur de récompense des aliments, précise Alexandre Caron, professeur à la faculté de pharmacie de l'Université Laval, qui confirme que les achats des utilisateurs évoluent. Ils ont, continue-t-il, moins de fringales et moins d'intérêt pour les aliments plus gras, plus sucrés ou plus salés. Ça change la faim, mais ça change aussi l'intérêt pour certains aliments. Le scientifique insiste toutefois. La réponse est très différente d'un patient à l'autre et nulle pour certains. En moyenne, on peut évaluer une réduction de 30% de la consommation alimentaire, dit-il. Qui a sauté sur ça? Si les fabricants locaux n'ont pas encore sauté dans le train, certains produits de géants de l'alimentation affichent fièrement la mention GLP-1 Friendly sur leurs emballages. Nestlé a lancé une gamme de pizzas, sandwichs et bols qui affichent cette prétention. Cette gamme amie pour les patients GLP-1 s'appelle Vital Pursuit. Ce sont des repas riches en protéines et en fibres et ne sont toujours pas offerts au Canada. À la fin de 2025, la chaîne de repas d'inspiration mexicaine Chipotle a lancé un menu riche en protéines pour ses restaurants des États-Unis et du Canada. Certains plats ont été conçus par les utilisateurs de médicaments GLP-1 et présentés ainsi comme ce bol de poulet, riz brun, haricots noirs et légumes qui contient 46 g de protéines, 14 g de fibres et 540 calories. Les quatre restaurants, Cuba Libre, vont plus loin aux États-Unis en misant sur un menu très clairement destiné aux utilisateurs d'Ozempic et d'autres médicaments de la même famille. Quelques autres restos font la même promotion. Guillaume Mathieu, cofondateur de la firme ILO, accompagne des entreprises dans le milieu agroalimentaire d'ici. Il doute que l'industrie québécoise aille si loin dans ses prétentions à court terme. Déjà, les fabricants présents sur le marché canadien viennent de réviser la formulation et l'emballage de certains de leurs produits pour échapper à la petite loupe qui affiche désormais qu'un aliment est trop salé, gras ou sucré. Selon lui, ils ne se précipiteront pas pour développer un produit spécifique visant à rejoindre 10% du marché. Surtout que les protéines sont à la mode depuis plusieurs années et que les fibres sont la nouvelle protéine, rappelle Guillaume Mathieu. Même des chaînes de café comme Starbucks ou Second Cup font la promotion de leur café protéiné. Si je suis dans la position d'un directeur marketing et que je dois décider si je mets « riche en protéines et en fibres » versus « mettre GLP-1 friendly » sur un produit, je vais vouloir rejoindre une plus grande part de la clientèle avec les protéines et les fibres. Résume Guillaume Mathieu. Monsieur Mathieu ajoute que le fait d'afficher le nom d'un médicament sur un aliment n'est peut-être pas l'option la plus alléchante. Aux États-Unis, ça ne semble pas être un frein. Selon le professeur Brian E. Rowe, les indications sur des menus de restaurants n'ont pas été rebutantes. De plus, la plupart des gens qui ont acheté des repas de la nouvelle gamme de Nestlé ne consommaient pas de médicaments. Une inquiétante banalisation. La nutritionniste Isabelle Marquis doute aussi du potentiel d'attrait d'une mention GLP-1 au Québec. Et cette banalisation du discours qui entoure la prise de médicaments de la famille du sémaglutide l'irrite beaucoup. C'est un médicament. Qui dit médicament dit nécessairement effet multiple sur la santé de la personne qui le prend, précise cette experte en communication et marketing alimentaire. Pour moi, mettre dans la même case une opportunité d'affaires avec un problème de santé, je trouve ça choquant. Isabelle Marquis précise aussi que les gens qui utilisent ce type de médicaments ont besoin de plus que des aliments riches en fibres et en protéines et que l'industrie risque de faire des raccourcis. Chaque bouchée qu'ils avalent devient particulièrement importante, dit-elle. Les transformateurs alimentaires qui voudraient aller dans ce marché-là devraient y aller avec conscience et empathie. L'opportunité d'affaires devient intéressante et pérenne à condition qu'elle devienne bénéfique, non seulement pour ceux qui sont sur GLP-1, mais pour n'importe quelle personne qui souhaite moins manger et mieux s'alimenter. Quelques définitions. GLP-1. C'est une hormone produite naturellement par le petit intestin. Le GLP-1 sécrète de l'insuline après le repas pour maintenir une glycémie stable. L'industrie pharmaceutique a développé des versions du GLP-1 qui sont moins dégradables, précise Alexandre Caron de la faculté de pharmacie de l'Université Laval. Le premier médicament qui mimète ainsi l'action du GLP-1 est apparu il y a une vingtaine d'années pour traiter le diabète de type 2. Sémaglutide. Le sémaglutide est l'ingrédient actif d'Ozempic, comme l'acétaminophène dans le Tylenol, par exemple. C'est aussi l'ingrédient de Wegovy, un autre médicament sous forme injectable approuvé au Canada. Le sémaglutide est une molécule qui reproduit l'action de cette hormone GLP-1 pour ceux qui en ont besoin. Ozempic. Ozempic est une marque, un nom commercial comme Wegovy. Ces deux médicaments sont peut-être les plus connus de la population présentement, mais il y a plusieurs autres médicaments GLP-1 avec des molécules différentes du sémaglutide comme ingrédient actif. On pense au liraglutide ou au dulaglutide. Ils sont tous dans la même famille et miment tous le GLP-1. Le tirzépatide est différent car il contient deux peptides combinés et peut être considéré comme un médicament GLP-1 de deuxième génération. C'est l'ingrédient de Mounjaro ou de Zepbound. C'était « Comment Ozempic influence votre assiette ?» Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 4 avril 2026 dans La Presse.
L'amitié fantasmée. Un texte de Florence Dancause, paru le 5 avril 2026 dans La Presse. Le groupe d'amis stéréotypés que l'on voit à la télévision, à la Sex and the City ou à la Girls, se réunit très souvent autour d'une bière ou d'un brunch et se raconte ses péripéties. Lorsqu'on compare sa vie sociale à ce modèle, on peut se sentir inadéquat. Lorsqu'on entre dans l'âge adulte, le cercle social tend à diminuer. On entame une carrière, parfois on déménage, on a des enfants. Bref, les responsabilités augmentent et le groupe d'amis du secondaire ou de l'université n'est souvent plus aussi présent qu'avant. Au Canada, les personnes âgées de moins de 25 ans peuvent compter sur environ 24 amis, selon des données de Statistique Canada de 2013. Leur nombre diminue avec l'âge. 20 amis pour les 25 à 34 ans, 19 pour les 35 à 44 ans, 15 pour les 45 à 54 ans et 11 pour les 55 à 64 ans. Malgré ce groupe d'amis moins élargi, le nombre d'amis proches reste sensiblement le même, 5 pour les moins de 35 ans et 4 pour les plus de 35 ans. Comment décrire l'amitié à l'âge adulte? Comme étant compartimentée. Avance Tracy Vaillancourt, professeur titulaire à l'École de psychologie de l'Université d'Ottawa. Plutôt que de compter sur un cercle très soudé, on a des amitiés individuelles qu'on voit dans des contextes particuliers, souvent en jonglant avec un horaire chargé. On prend des cafés avec une amie de longue date, on croise un autre aux entraînements de soccer de notre progéniture, on court le midi avec un collègue. Malgré ces liens amicaux, plusieurs se sentent seuls et pas vraiment connectés aux autres, mentionne la professeure Tracy Vaillancourt. En 2024, 14% des Canadiens de 25 à 54 ans disaient se sentir seuls, selon Statistique Canada. Les cercles idéalisés. Sur les réseaux sociaux, les photos et vidéos d'amis qui organisent des soirées ou même des week-ends dans des chalets pullulent. C'est facile de sentir qu'on appartient à nulle part, met en lumière l'autrice et conférencière Karine Côté-Andretti, qui a écrit « Port d'attache, osons révolutionner nos amitiés ». La pression vient aussi de la culture populaire. On pense à la série Friends, où Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler et Joey sont toujours réunis, ou à Sex and the City, qui mettent en scène des amis qui se soutiennent à travers leurs déboires affectifs autour de brunch. La satisfaction que les gens ressentent face à leur cercle social croît avec le nombre d'amis. C'est ce qu'a démontré un sondage du Survey Center on American Life en 2021.
Un filet social plus grand pourrait expliquer ce haut niveau de satisfaction, pointe la psychologue Léonie Lemire-Théberge. Par exemple, si quelqu'un vit une rupture, chaque personne du groupe d'amis peut se relayer pour aider et apporter du réconfort, explique-t-elle. Un gang est aussi synonyme de culture commune et d'un sentiment d'appartenance, ajoute Karine Côté-Andretti, qui croit qu'on romantise un peu trop ces clans tissés serrés. Des conflits peuvent survenir. Il faut aussi naviguer entre les différentes personnalités et attentes du groupe, décrit-elle. La charge mentale, que ce soit l'organisation d'activités ou simplement le maintien des liens, peut tomber sur une seule personne. Dans Friends, c'est clairement Monica. Qu'est-ce qui arrive si elle décide de se désengager, puis de ne plus ouvrir les portes de son appartement? Donne-t-elle en exemple. S'engager dans l'amitié. Les gens se comparent à quelque chose qui n'est pas la norme, expose Tracy Vaillancourt. Le sentiment de solitude vis-à-vis de nos amitiés pourrait moins être causé par leur quantité que par des besoins non comblés. De quoi a-t-on réellement besoin? Des amis qui sont là pour nous, qui nous soutiennent et qui nous font nous sentir bien, relève la professeure titulaire à l'École de psychologie de l'Université d'Ottawa. Peu importe leur nombre, fait-elle valoir. Selon Karine Côté-Andretti, on devrait davantage célébrer les amitiés individuelles. Celles-ci sont habituellement plus profondes et intimes et ne sont pas moins satisfaisantes. Envie de se sentir plus connecté à ses amis? Il faut de l'engagement et peut-être reconsidérer la place qu'on leur accorde, souligne l'autrice. Dans son livre, paru en 2024, elle proposait justement de remettre l'amitié au cœur de nos vies et d'oser avoir des projets de vie avec eux, et pas seulement avec notre conjoint ou notre conjointe. Parce que même dans Friends, les amis sont considérés comme un passage temporaire avant de fonder sa famille nucléaire, évoque Karine Côté-Andretti. Moi, l'amitié, c'est une saison dans laquelle j'ai envie de m'enraciner à long terme, témoigne-t-elle. Nous sommes nostalgiques de nos gangs d'amis. Rien ne nous empêche d'en recréer un. On peut s'investir dans le comité social au travail ou de renouer avec d'anciens groupes, souligne la psychologue Léonie Lemire-Théberge. Autre astuce, on ritualise les rencontres amicales en se voyant par exemple chaque mois autour d'un repas. Or, on ne doit pas dévaloriser ses relations d'amitié avec les gens que l'on voit au quotidien, mais qui sont plus superficielles. Ça fait partie de notre communauté et de notre village, illustre Karine Côté-Andretti, qui croit que les gens sont nombreux à désirer ces contacts plus fréquents. En 2022, c'était un peu moins d'un Canadien sur cinq qui voyait des amis au cours d'une journée, alors qu'en 1986, c'était le cas pour près d'un Canadien sur deux, d'après Statistiques Canada. En fin de compte, qu'on soit plutôt une personne de gang, d'amitié individuelle ou d'un mélange des deux, chaque type d'amitié nous apporte ses richesses, rappelle la psychologue Léonie Lemire-Théberge, qui explique que ce qui compte vraiment, c'est de ne pas être isolé. C'était « L'amitié fantasmée », un texte de Florence Dancause paru le 5 avril 2026 dans la presse.
Le rouge délavé. Un texte de Michel David, paru le 13 avril 2026 dans Le Devoir. À l'issue d'une course, un appel à l'unité des troupes est une figure imposée pour le chef sortant. Celui lancé récemment tenait presque de la supplication. Le parti concerné a toujours reposé sur un équilibre fragile. Deux visions distinctes y cohabitent. L'une davantage axée sur la création de richesses, l'autre sur la défense de l'identité. Maintenir cet équilibre a longtemps constitué sa force, mais aussi sa principale vulnérabilité. Même lorsque les acteurs politiques affichent leur ralliement, rien ne garantit que leurs partisans suivront. Certains peuvent ressentir un décalage entre leurs attentes et la direction prise, alimentant un sentiment de perte ou de désillusion. Dans ce contexte, l'arrivée d'un nouveau leadership peut accentuer ces tensions. Une orientation perçue comme trop modérée ou trop éloignée de certaines priorités peut donner l'impression d'un repositionnement, voire d'un glissement idéologique. Les formations concurrentes sont souvent promptes à exploiter ces moments de transition. Elles cherchent à attirer les électeurs qui pourraient se sentir moins représentés, en particulier lorsque des enjeux identitaires ou économiques sont en jeu. Malgré ces tensions, certaines transitions se déroulent sans crise majeure. Une victoire claire permet généralement d'éviter une fracture immédiate, même si les défis demeurent importants pour la suite. La formation d'une équipe dirigeante constitue alors un test déterminant. Il faut à la fois reconnaître les appuis reçus et intégrer les différentes sensibilités tout en maintenant une cohérence dans l'action politique. Cette étape est d'autant plus délicate que les attentes sont élevées et que les marges de manœuvre peuvent être limitées. Trouver un équilibre entre continuité et renouvellement devient essentiel. Au-delà des jeux internes, la perception des électeurs joue un rôle central. Les choix effectués par un parti peuvent être interprétés comme une tentative de repositionnement stratégique visant à élargir sa base ou à assurer sa survie. Toutefois, ce type de repositionnement comporte des risques. En cherchant à plaire à un électorat plus large, une formation peut perdre en clarté ou en cohérence, donnant l'impression d'une identité diluée. Or, lorsque les repères deviennent flous, l'adhésion peut s'effriter. Qu'il s'agisse de positions économiques ou identitaires, des orientations perçues comme affaiblies peuvent susciter moins d'engagement. Ainsi, dans l'arène politique, les nuances et les compromis sont inévitables, mais ils doivent être accompagnés d'une vision suffisamment claire pour maintenir la confiance, car, quelles que soient les couleurs affichées, elles risquent de perdre de leur éclat lorsqu'elles deviennent trop indistinctes. C'était Le Rouge délavé, un texte de Michel David, paru le 13 avril 2026 dans Le Devoir.